une question.
Oui.
Vous avez dit dans le capitaine, le 6e, le 7e, que même les théologiens dogmatiques ont du mal à définir finalement une liste de dogmes.
Oui.
Alors, comment le fidèle fait-il?
Ce que je propose, je prends un faisceau de questions. Comme ça, ça me permet de... Parce que si je réponds, je me connais, je vais parler.
Je vais vous poser une question.
Oui.
Est-ce que Jésus a reçu une révélation divine ou pas? Est-ce la révélation divine, aujourd'hui, est-ce que par rapport au dogme qu'on prend les décisions, on les abandonne ou comment on fait pour les maintenir?
D'accord. Voilà. Ok. Ensuite...
Je vais paraître très provoque, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu, dans mon interprétation, quand vous parlez de l'interprétation et de dogme, un peu de démagogie, en fait, sur, par exemple, une éventuelle crise de l'Église? Quel est votre point de vue?
D'accord. Ensuite...
Je peux comprendre qu'un dogme pouvait être réversible, si je puis dire. Est-ce qu'il y a une différence entre un dogme qui a fait l'objet de l'infaillibilité papale et un dogme qui aurait été simplement édicté par le magistère? Excusez-moi, je vais peut-être complètement vous en choquer, mais...
D'accord. Ensuite?
Entre révélation et inspiration.
Oui.
Lorsqu'il y a une contradiction entre les deux, lequel privilégie-t-on?
D'accord.
Je veux parler d'évoquer l'Institut de 1870 avec la réalité et l'agriculture.
Oui.
Vous avez parlé de réalité augmentée du dogme, si j'ose dire, donc sans déformation, enfin, qui prend sa source dans l'écriture, mais qu'on ne doit pas. Qu'on ne doit pas non plus déformer, qui est reçu par les fidèles. En quoi ces deux dogmes, puisque ce sont des dogmes, ont-ils été, enfin, comment prennent-ils leur source et comment ont-ils été finalement admis à la réception des fidèles?
Ok. Ensuite,
vous avez dit que, on ne peut pas dire le nombre de dogmes, il y a quand même plusieurs centraux. Si le dernier est peut-être celui de l'Immaculée Conception, affirmé au 19e, en définitive, 1854, 1870, 1854, je crois. L'affirmation trinitaire d'un Dieu unique est quand même une vérité centrale dogmatique. Même si Jésus a parlé de son Père et de l'Esprit.
Ensuite,
pas mal. S'il n'y a pas assez de questions, il faut que vous repreniez la fin de votre exposé. Parce que c'est dommage de manquer les deux ou trois derniers chapitres. Hein. Vraiment. On sait qu'il faut.
Oui, par exemple, sur la question de l'écuménisme, c'est vrai que ça aurait été intéressant.
On va y venir, alors, parce que là, il y a une question là-dessus, là, sur le... Il y a une question qui va m'y emmener, je pense. Alors, je commence par la dernière question, parce qu'elle est la plus. L'avant-dernière question, parce qu'elle est la plus. La plus. Peut-être la plus factuelle. Est-ce que le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en 1950 et le dernier en date? Alors on ne sait pas, justement, il y a débat là-dessus. Gaudium et Spes 22, parce que vous avez ceci. Donc on sait que les pères conciliaires n'avaient pas l'intention de promulguer des dogmes. On le sait, hein. Mais ils ont écrit ceci. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Alors aujourd'hui, il y a débat dans la communauté des théologiens dogmaticiens de savoir si ici on n'a pas un dogme involontaire, à cause de la formulation. Ça porte sur la foi. C'est un acte solennel du magistère. Il y a l'expression « nous devons tenir que », mais il n'y avait pas l'intention d'eux. Ben aujourd'hui, je peux vous dire qu'on bosse. Hein. C'est peut-être là le dernier dogme en date, mais alors là, on va jouer à plein le phénomène de la réception. Il y a un autre dogme, peut-être récent, qui est en train de jouer sur le même plan, sur le plan de la réception, c'est celui de l'ordination des femmes. Et c'est François. Donc il y a le pape Jean-Paul II a écrit une lettre en disant que c'était impossible. Mais il a écrit une lettre, il a écrit une exhortation, je crois, ou une lettre, tout simplement une lettre. Donc ce type de document, vous savez que les papes, ils labellisent les documents qu'ils produisent, ce qui en donne une hiérarchie quant à leur degré d'autorité. Il se trouve que le pape Jean-Paul II, lorsqu'il a écrit le texte disant que l'ordination des femmes était impossible, a utilisé un label qui donne un très faible niveau d'autorité. Donc c'est assez troublant, ce qui a provoqué des débats. C'est-à-dire que Benoît XVI, une fois devenu pape, a été réinterrogé et il a dit que, de son point de vue, Jean-Paul II avait répondu. Ça n'a pas paru suffisant. François arrive, il est réinterrogé et François a dit « Je considère que Jean-Paul II ayant écrit ce qu'il a écrit et Benoît XVI ayant confirmé comme il l'a fait, le débat est clos. » La question se pose de savoir si François n'a pas émis un dogme, là. On ne sait pas, hein. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est délicat. Vous avez le dogmaticien dogmatique, c'est-à-dire pas très futé, qui va trouver qu'il y a du dogme à chaque fois qu'un pape ouvre la bouche, y compris pour dire « j'ai faim ». Et vous avez les dogmaticiens un peu plus patinés, on va dire, qui se tordent le cerveau sur ce genre de problème très délicat.
Quand il y a une attention. Attention.
Sauf que c'était pas un acte solennel, c'était une interview.
Oui, mais la parole est essentielle.
Oui, mais vous avez vu les textes normatifs, il faut un acte solennel.
Les dogmes constituent un ensemble flou.
Pour certains d'entre eux, oui. Je vous donne un autre exemple. Non, on n'est pas. Jamais le système dogmatique, jamais on ne peut avoir un système dogmatique. Voilà. Jamais, sinon, on tombe dans l'idolâtrie. Hein. Sinon, ça veut dire qu'on a fait rentrer le mystère dans une philosophie. Voilà. Dieu sera toujours au-delà de ce que nous disons de lui. Hein. Donc, dès lors qu'on voudrait commencer à élaborer une systématique dogmatique parfaitement verrouillée, prenant en charge tous les aspects sans hésitation, vous êtes dans l'idolâtrie intellectuelle. Donc, de fait, il y a un certain flou de ce point de vue-là, mais c'est un flou qui, alors là, pour le coup, est de l'adoration et de la piété au sens noble. S'il n'y avait pas ce flou, ce serait de l'idolâtrie. Hein. Et après, c'est vrai que, d'un point de vue technique maintenant, et pas simplement d'un point de vue fondamental, mais d'un point de vue technique, il y a beaucoup d'aspects qui sont flous. Un autre exemple, tarte à la crème pour les spécialistes, mais qui en général bouleverse un peu les fidèles, le péché originel. Nous sommes dans l'obligation dogmatique d'affirmer qu'il existe, mais nous n'avons aucune définition dogmatique de ce qu'il est. Donc dogmatiquement, un professeur de théologie doit dire qu'il existe. Alors quand il doit expliquer ce qu'il est, il a. Alors je ne vais pas dire qu'il a carte blanche, parce qu'il y a quand même des points, des choses qui sont. Mais il y a des marges de manœuvre considérables, considérables. Vous voyez ? Et là aussi, on est dans le cas où le prononcé dogmatique du Concile de Trente sur le péché originel est là pour fixer un cadre. Voilà. Le cadre, c'est il faut dire qu'il y en a un. Alors, je prends maintenant la question sur les dogmes mariaux, le dogme mariable du 19e, en particulier celui de l'Immaculée Conception 1854, parce que c'est très important et c'est très intéressant. Donc, c'est Pie IX. C'est 1854, c'est le dogme de l'Immaculée Conception qui porte sur la Vierge Marie. Et alors là, c'est intéressant à plus d'un titre. Premier titre, le pape Pie IX a fait ce qu'a fait François pour, alors là aussi ça a été médiatisé, donc vous le savez peut-être, pour préparer le fameux texte de 2016 dont j'ai parlé tout à l'heure. Le pape François a envoyé une immense concertation dans toutes les paroisses du monde. Donc il a sollicité l'avis des fidèles. Voilà. Ça a plus ou moins bien marché parce que ça a été plus ou moins bien relayé. Il se trouve que ce n'est pas nouveau. Le pape Pie IX a fait ça pour le dogme de 1854 avant. Et là, ça a été extrêmement bien relayé. C'est-à-dire que réellement, ça n'a pas du tout été du maquillage, hein, du postiche. le pape Pie IX a réellement ordonné une consultation planétaire de la vie des fidèles, et celle-ci a été réellement conduite. Donc c'est très intéressant. Et, alors, dans le prononcé dogmatique, malheureusement il faut lire le latin parce qu'il n'a pas été entièrement traduit, il appuie l'essentiel de la validité du dogme sur le sentiment des fidèles. Il y a des raisons théologiques, ça sera mon deuxième point, au dogme de l'Immaculée Conception qui sont passionnantes et que je vais évoquer dans un instant, mais ce n'est pas là-dessus que s'appuie d'abord Pie IX. Le ressort principal de son argumentaire, c'est ce que le Seigneur inspire aux baptisés. Et ça, c'est très important, parce que Pie IX, par ailleurs, c'est un pape ultra-autoritaire. Donc c'est intéressant de voir que même Pie IX a une conscience très vive. Le même qui a fait définir, qui est celui de l'infaillibilité pontificale, est conscient que là, il définit un dogme comme porte-voix des baptisés. Et pas parce que c'est sa piété personnelle, il aime bien la Vierge Marie, et donc il va nous décréter un truc, et les fidèles vont devoir s'y adapter. Pas du tout. Donc ça, c'est très intéressant. La deuxième chose, il y a dans le développement dogmatique des aspects proprement théologiques. Par exemple, alors là, c'est un peu technique. Je développerai si vous en avez besoin, mais je vais essayer d'être bref, donc ça va être un peu... Le dogme de l'Immaculée Conception est un dogme qui permet d'illustrer ce que nous savons théologiquement depuis longtemps, mais que nous avions du mal à dire de manière aussi précise jusqu'alors, et qui est très présent dans les Écritures, notamment dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Colossiens, et voici cette réalité, c'est que le mystère du Christ n'est pas un mystère linéaire, c'est-à-dire venant prendre place un beau jour dans la chronologie de l'histoire, mais le mystère du Christ est un mystère à la fois central dans l'histoire, englobant toute l'histoire et rayonnant à travers toute cette histoire. Par exemple, vous avez le fameux énoncé de l'Épître aux Éphésiens au tout début qui vous dit « Dieu le Père nous a tous élus en Christ dès avant la fondation du monde ». En fait, le dogme de l'Immaculée Conception illustre ça. Parce que l'énoncé total, en latin, vous dit que c'est par une grâce anticipée du Christ que Marie est jouit de ce privilège d'avoir été préservée des conséquences du péché originel. Et ici, Marie et Immaculée Conception a un titre éminent en raison de sa vocation d'être la mère du Sauveur, d'être la mère du Christ. Mais ce qui vaut pour elle vaut dans une moindre mesure pour toute l'humanité. C'est-à-dire, il n'y a jamais un être humain dans toute l'histoire humaine, il n'y a jamais une portion du temps ou de l'espace de l'histoire humaine qui soit complètement en dehors du rayonnement sauveur du Christ. Et en fait, il y a un lien très intime entre ce dogme marial de 1854 et Gaudium et Spes 22, que vous avez sous les yeux, qui vous dit, d'une façon que Dieu connaît, tout homme a la possibilité d'être associé au mystère pascal, c'est-à-dire au salut. Voyez ? Donc là, vous avez un développement théologique qui a conduit à ce dogme, lequel a des enjeux très larges, pas simplement de piété mariale, de piété vis-à-vis de la Vierge Marie. Ça va ? Et il y a une troisième chose à dire sur ce dogme marial, c'est qu'il a précisément fait l'objet d'un vaste dialogue œcuménique, donc c'était le huitième item, notamment au sein de la commission qui s'appelle ARCIC, A-R-C-I-C, c'est Anglo-Roman Commission, Anglo-Roman Catholic, ARC, International Commission, la commission internationale de dialogue romain-catholique et anglican. Est une commission d'experts théologiens qui est très importante parce que cette commission jouit de la double reconnaissance, c'est-à-dire que les membres de cette commission font signer leurs documents par leur hiérarchie respective, c'est-à-dire que les deux églises, l'église romaine catholique et l'église anglicane, sont liées par, se lient occasionnellement aux travaux produits par l'ARCIC. Or, l'ARCIC est tombé d'accord pour dire que le dogme de l'Immaculée Conception, comme le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie décrété par Pie II en 1950, peuvent être considérés comme des prolongements de l'Écriture. Et donc pas comme un ajout, mais comme une manière de l'interpréter. Et la question, et on rejoint le flou, et ce texte a été signé par les deux églises. y compris dans une question que le texte pose aux deux églises, et la question a été posée, donc elle est validée côté catholique, et elle est redoutable. Et voici la question, ce dogme doit-il être tenu comme obligatoire pour tous les chrétiens, ou devons-nous considérer que les dogmes obligatoires sont seulement les dogmes qui portent sur le Christ et le salut? Là, vous avez deux questions dans la question. Le dogme de l'Immaculée Conception ne porte-t-il pas sur le Christ et le salut? Je viens de vous montrer que, de mon point de vue, alors je m'engage comme dogmaticien, il porte sur le salut. Donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'il ne porte pas sur le salut. Mais justement, le texte pose la question. Porte-t-il ou ne porte-t-il pas sur le salut? S'il ne portait pas sur le salut, ce qui n'est pas mon avis, à ce moment-là, doit-on considérer qu'il est obligatoire? C'est-à-dire que les Anglicans, du fait des travaux de cette commission mixte, nous sommes aujourd'hui catholiquement dans la situation de dire on a un consensus avec des non-catholiques pour dire que oui, là aussi, ce n'est pas un ajout de la révélation, mais c'est un développement de la révélation. Mais on a une vraie question que nous avons acceptée, qui est de savoir si, y compris en interne, on doit considérer que l'adhésion à ce dogme est obligatoire. C'est complexe, hein ? Pour le dire vulgairement, la théologie dogmatique n'est pas la théologie au garde à vous. C'est une théologie délicate. Voilà.
Mais la remise en question suffit-elle à faire tomber le dogme ?
Le dogme ne tombe jamais. Une fois que le dogme a été promulgué, il ne tombe jamais, puisqu'il est considéré comme une expérience d'inspiration et de révélation. Alors, pas de révélation avec un R majuscule, mais d'inspiration suffisante pour qu'ici, il y ait une norme dans la manière de se rapporter à la révélation. Ça, c'était votre question.
C'est ça, c'était ma question.
C'était votre question. D'inspiration. Alors, il ne tombe jamais une fois qu'il a été promulgué. Après, son interprétation peut connaître des variations énormes. Par exemple, hors de l'Église, point de salut, ce n'est pas révocable, mais la manière de le comprendre, alors là, subit des variations colossales. Colossales. Et bien sûr, alors on peut dire qu'il y a de la démagogie, et c'est pas tout à fait faux, mais est-ce un problème ? Par exemple, on a vu la conclusion de l'article de Mgr Windsor. Enfin, c'est un problème. L'idéal serait qu'on n'ait pas besoin de la démagogie. Mais qu'il y en ait besoin parfois pour que les choses évoluent en interne, c'est un fait, et bien tant mieux. Mgr Windsor conclut son article en disant que la pression extérieure n'est pas encore assez forte. Il est évident que la crise de la pédophilie nous fait beaucoup de bien. Hein, dans notre auto-compréhension de ce que c'est que l'autorité dans l'Église, par exemple. Ah. Est-ce que c'est de la démagogie ? Oui, en un certain sens. Oui, on y est contraint par le scandale. Ben, tant mieux. Tant pis pour nous, et tant mieux. Bien sûr que vous avez affaire à un processus qui est incarné dans l'histoire et qui est tributaire aussi des mesquineries humaines. Mais ça, pour nous, c'est pas un problème. C'est la fameuse phrase de Claudel, Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et ça me va très bien. Et j'assume, c'est-à-dire que si malheureusement nous sommes trop mesquins et que nous avons besoin du scandale pour nous purifier en interne, eh bien qu'il y ait scandale et qu'il soit le plus violent possible. Et ça s'est déjà produit à maintes reprises dans l'Église, par exemple, y compris parfois en interne. Par exemple, les décisions du Concile de Trente sur les évêques, le Concile de Trente a serré la vis aux évêques d'une manière extrêmement stricte, est venu du scandale des évêques qui n'étaient pas résidents. On en a entendu tout à l'heure quelque chose dans la visite. Hein. Les évêques se faisaient nommer pour des histoires de fric. Abbés de monastères dans lesquels ils ne mettaient jamais les pieds, tout simplement parce que ça leur faisait des revenus en plus. Ils se faisaient nommer de diocèses où ils ne mettaient pas les pieds non plus. Voilà. Et le Concile de Trente a mis un holà parce que le protestantisme se diffusait en partie à cause du scandale public de ces situations-là. Ce ne serait pas la première fois que l'Église aurait eu besoin du scandale extérieur pour évoluer. Ben, soit. Est-ce qu'il y a encore des questions en suspens ? Ah oui, Jésus a-t-il reçu une révélation ? Pour les chrétiens, oui. Jésus n'est pas un prophète. Il est la parole de Dieu, faite chair, faite homme. Donc il n'a pas reçu une révélation. Il est la révélation. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur ce qu'on transmet. Ce n'est pas d'abord ni seulement du rite, ce n'est pas d'abord ni seulement des lois. Ce n'est même pas d'abord pour les catholiques et les orthodoxes. Les protestants, ce n'est pas tout à fait d'accord. Ce n'est pas d'abord ni seulement un écrit dans sa matérialité, mais c'est lui. Voilà. Il n'est pas un prophète. Il est la révélation. Il est
la révélation.
Jusqu'à lui, Dieu a parlé par des prophètes. À partir du Christ, c'est Dieu qui parle. À hauteur d'homme. En un homme. Et comme un homme.
D'accord.
Voilà. Et on tombe tout de suite dans la Trinité. Qui c'est qui m'avait posé la question tout à l'heure? Voilà. Alors, la Trinité, je ne serais pas tout à fait d'accord pour dire que c'est un dogme. C'est-à-dire que vous avez des amants du dogme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement fondamentales. Personnellement, ça serait comme dire... Il y a certaines choses qui sont tellement de l'ordre de l'évidence croyante qu'on ne va pas dire ça, on va avoir des réticences à appeler cela un dogme. Pour un catholique en tout cas, et comme pour un orthodoxe, et comme quand même pour une très grande, une immense partie des protestants, pas tous, mais la plupart des protestants, la Trinité est une telle évidence dans la révélation chrétienne que je crois que la plupart d'entre nous, on hésiterait à dire qu'il s'agit d'un dogme. Voilà. Tout simplement, c'est le donné révélé premier. Vous voyez ce que je veux dire ? En revanche, il y a des prononcés dogmatiques relatifs à la Trinité et qui font toujours l'objet de débats. Par exemple, le filioque. Alors là, vous avez du dogme, mais ce n'est pas un dogme sur la Trinité au sens où elle existe ou elle n'existe pas. C'est au sens de comment en rendre compte. Et là, vous avez toujours des débats. Hein. Et il y a d'autres débats aujourd'hui internes à l'intérieur du monde catholique sur justement l'intelligence trinitaire. Vous voyez ? Donc, la Trinité, en tant que réalité première de la foi, personnellement, je ne dirais pas que c'est un dogme. Mais la manière d'en rendre compte, encore aujourd'hui, fait l'objet de travaux énormes. Je pense que le XXe siècle est un des siècles les plus productifs dans la théologie catholique, mais aussi chez les orthodoxes et les protestants, sur la question trinitaire. On a même parlé de renouveau de la question trinitaire au XXe siècle. Par exemple, il y a une belle convergence œcuménique. Vous avez des travaux, pour le coup, assez sereins, du coup, assez typés. C'est pas la même chose si c'est un catholique, un orthodoxe, un protestant, mais il y a des convergences très très nettes sur comment articuler dogme trinitaire et théologie de l'histoire. C'est en quoi la révélation de Dieu Trinité nous donne-t-il une intelligence renouvelée de ce qu'est l'histoire et de ce qu'est Dieu dans l'histoire. Voilà. Pour donner un exemple de ce que ça peut donner, par exemple, la mobilisation théologique trinitaire contemporaine, par exemple, du schéma contenant. Dieu-Trinité, c'est dire que Dieu est capable de nous, y compris dans notre histoire, y compris dans notre histoire qui peut éventuellement être une histoire du non que nous lui opposons, parce qu'il contient cette histoire, parce qu'en lui-même, il est Trinité, c'est-à-dire espace. Bon, vous avez énormément de réflexions. Vous avez aussi des articulations plus appliquées entre communion trinitaire et communion ecclésiale. Alors, ce qui est très beau, c'est que vous avez une vraie convergence. Et ils sont assez typés. Par exemple, le dernier aspect ecclésiologique, communion trinitaire et communion ecclésiale, il y a beaucoup de protestants. Par exemple, le plus célèbre qui travaillait là-dessus, c'est Moltmann, qui est un immense monsieur. Chez les orthodoxes, vous allez trouver des choses très comparables. L'articulation vie trinitaire et théologie de l'histoire va beaucoup passer par la question de la théologie et de la liturgie. Alors, par exemple, vous avez Olivier Clément, qui est un très grand théologien orthodoxe, qui est décédé il y a une dizaine d'années maintenant, français, remarquable. Vous avez il y a beaucoup de travaux là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Jésus lui-même, il s'est défini, est-ce qu'il y a dans la Bible, il s'est défini comme quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation, ou il s'est défini comme...
Alors après il faut les yeux de la foi, ouais. C'est-à-dire que... Ouais. Et alors, il a ce qu'on appelle une revendication, qui a d'ailleurs conduit tout droit à sa condamnation, hein, c'est que quand on lit les évangiles, c'est très net. Par exemple, il pardonne les péchés, et ses contemporains réagissent en disant « c'est un blasphème, Dieu seul pardonne les péchés ». Et ses opposants vont dire « il parle en se faisant l'égal de Dieu ». Et c'est très net. Par exemple, quand il commente, quand il parle, justement, j'ai fait un lapsus, quand il parle, il ne fait pas comme moi, ou comme les rabbins, ou comme les prophètes. Il ne commente pas la parole de Dieu. Il parle en législateur. Par exemple, dans le Matthieu chapitre 5, 6, 7, il fait des allusions assez nette aux 10 commandements, à la révélation de l'Ancien Testament, au Sinaï, à Moïse, etc. Et il dit, on vous a dit, moi je vous dis. Et il modifie la loi, c'est-à-dire qu'il parle en législateur et pas simplement en interprète de la loi. Or Dieu seul est législateur. Voilà. Non, ça c'est très net. Ça ne veut pas dire qu'on soit obligé d'y croire. Mais que Jésus se soit présenté auprès de ses contemporains avec une revendication d'autorité qui pouvait être interprétée comme un blasphème, ça c'est historiquement indiscutable. Vous avez entendu ce que j'ai dit, hein ? Oui. Je ne dis pas que la divinité de Jésus est historiquement discutable, puisque la divinité de Jésus c'est un énoncé de foi, donc on ne peut pas en faire quelque chose d'historiquement indiscutable. Ce qui est indiscutable, historiquement parlant, c'est que Jésus ait eu des revendications de positionnement vis-à-vis de Dieu qui était interprété par ses contemporains comme de l'ordre du blasphème, c'est-à-dire comme de l'ordre de la volonté de se mettre à l'égal de Dieu. Ça, c'est indiscutable historiquement.
Encore une question générale. La distinction des domaines entre la théologie et la théologie dogmatique, est-ce que la théologie dogmatique, c'est pas ce qu'on appelait avant l'apologétique ?
Non, c'est la théologie fondamentale, qu'on appelait autrefois l'apologétique.
Bon, mais alors, la différence entre les deux ?
Alors, la théologie dogmatique, là, vous êtes en plein dedans ce matin. Par exemple, est-ce qu'avec cet énoncé que vous avez encore sous les yeux, on a affaire à un dogme ou pas ? Alors, vous avez tout ce qu'il faut, sauf l'intention. Est-ce que, lorsque François dit, dans une interview, donc vous n'avez pas le contexte, mais pour moi, mes prédécesseurs ont tranché le débat, est-ce que c'est un dogme ? Alors là, vous êtes en théologie dogmatique pure. Ou bien, un autre aspect de la théologie dogmatique pure, c'est lorsque je vous dis, il y a un lien intime entre le dogme de 1854, l'Immaculée Conception, et cet énoncé de Gaudium et Spes 22, puisque le dogme de 1854 est tributaire de l'exploration accrue, améliorée, de la non-linéarité du mystère du Christ. Là aussi, on est en pleine théologie dogmatique, c'est-à-dire les rapports organique entre les différents aspects du mystère, entre les différents aspects du dogme. La théologie fondamentale, alors la frontière est ténue, hein. La théologie fondamentale, c'est quand vous explorez ces questions-là et puis d'autres sous le double horizon qui est la recevabilité de se croire en interne pour le sujet croyant et la recevabilité de se croire en externe. Alors la recevabilité en interne pour le sujet croyant, c'est par exemple la cohérence du mystère dans son organicité. La recevabilité en externe de ces données, alors pour le non-croyant, pour celui d'une autre religion, c'est par exemple la mise en évidence, la mise en valeur que l'homme, que anthropologiquement parlant, l'homme est fait pour cette révélation. Par exemple, la résurrection de la chair. Je dis la même chose autrement, en théologie fondamentale, on va dire « L'homme ne sait pas ce que signifie vivre sans un corps. Être homme, c'est posséder un corps. D'une certaine manière seulement, je suis mon corps, et donc je suis fait pour l'énoncé résurrection de la chair. » C'est ne pas dire que j'y croirais. Ça veut dire que cet énoncé rejoint une donnée anthropologique fondamentale. Là, on est en théologie fondamentale, on n'est plus en théologie dogmatique. Et là, on sort de cahier des charges de mon exposé. Hein.
C'est très bien, parce qu'il faut qu'on en sorte, justement.
Voilà. À table.
Merci, Jean-Marie. Une dernière question, et après, on aura le temps encore de discuter.
Non, mais moi, je reviens sur la question que j'avais...
Il y a eu un...
Non, mais il y avait Alexis qui avait commencé.
Non, mais j'ai pas bien entendu la réponse sur la contradiction entre... ce que j'ai dit, quand c'est une contradiction entre la révélation et l'inspiration... J'ai pas vraiment compris, en tout cas...
Mais nous, on ne voit pas de contradiction, par exemple.
C'est-à-dire, parce que j'ai l'impression, d'après votre exposé, que l'inspiration a tendance à dominer la révélation, dans la question de l'espace-temps.
Non. Alors oui, je comprends qu'on puisse entendre des choses comme ça, mais... c'est pas comme ça que en interne nous vivons les choses. En interne nous vivons la révélation comme pas seulement quelque chose du passé, mais comme quelque chose d'actuel. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, hein, plutôt que de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais prendre un autre exemple pour essayer de sortir de l'impasse. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais enfin, si, c'est tout à fait lié à votre question, mais je vais la prendre par un biais tout à fait différent. Pourquoi donc, vous étiez à la messe là, tout à l'heure. Alors, la messe, on l'a tous les jours. Alors, on a plusieurs rythmes. Hein. On a un rythme annuel, un rythme hebdomadaire et un rythme quotidien. Le rythme le plus visible, c'est le rythme hebdomadaire. C'est la messe dominicale. C'est tellement vrai qu'il y a un cycle des lectures qui est fixé pour la messe dominicale, pour la messe en semaine aussi, mais pour la messe dominicale, il y a un cycle des lectures qui est autonome par rapport au cycle de semaine. C'est tellement vrai que je peux un dimanche tomber sur un évangile, je fais l'homélie, la prédication, et mardi prochain, je retombe sur le même. Alors là, je fais la gueule, parce que... alors que sur les dimanches, le même évangile reviendra dans 4 ans. Ok ? Donc on a un rythme de lecture dominicale qui tourne sur 3 ans, et donc pour qu'un même évangile revienne, il faut attendre 4 ans. Parce que l'année 1, année 2, année 3, et donc les évangiles de l'année 1, ce sera la quatrième année, c'est de nouveau l'année 1. Okay, et donc, quand un catholique est pratiquant, il connaît par cœur. Par cœur. Dès que j'ai dit les premiers mots, déjà, il n'écoute plus. C'est pour ça qu'une partie de l'obélie, c'est de répéter ce qu'on a lu, parce qu'on sait que le fidèle... un homme avait deux fils. Voilà. Un homme avait deux fils, les catholiques pratiquants ici à table savent tout de suite ce que Luc 15, les paraboles de la miséricorde. Voilà. Et il y en a un qui dit « Donne-moi ma part d'héritage », c'est vrai, ils connaissent l'histoire. Donc dès qu'à la messe, je dis « Un homme avait deux fils », ça y est, tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on répète cycliquement les lectures depuis 2000 ans ? Parce que nous avons conscience de répéter une expérience de révélation normative, parce qu'elle est inspirée au plus haut degré, c'est celle-ci, et nous la répétons dans un contexte de célébration qui lui aussi est inspiré, et en méditant cette expérience de révélation normative du passé, nos sens spirituels, si je puis dire, s'ouvrent pour faire la même expérience de révélation maintenant. Par exemple, je raconte ce que Jésus a fait et dit pour mieux comprendre ce qu'il fait maintenant et dit maintenant. Mais mon maintenant n'est pas le maintenant d'il y a 2000 ans. D'où la possibilité, alors même qu'il a dit ceci, qui a pu être entendu de manière très très stricte pendant 15 siècles, 16 siècles, 17 siècles, 20 siècles, puisse être entendu différemment au fur et à mesure que le temps passe. Par exemple, sur le divorcé.
On garde l'original quand même.
Bien sûr qu'on garde l'original.
Voilà.
Mais nous ne sommes jamais renvoyés à l'original dans sa seule littéralité. D'accord. Nous sommes renvoyés à l'original en tant qu'il est normatif d'une expérience de relation, en fait. De révélation comme relation. Donc pour nous, la révélation ne renvoie jamais à un passé révolu. Ou figé, parce qu'il y a quand même quelque chose qui révolue. C'est-à-dire Jésus est venu qu'une fois et quand il reviendra, c'est faux de dire qu'il reviendra. C'est-à-dire que nous sommes dans la revenue du Christ, si je puis dire. Et ça signifie la fin de l'histoire, l'aboutissement de ce mouvement-là. Mais il y a quand même quelque chose qui est l'incarnation, c'est révolu. Voilà. La passion, c'est révolu. Ça n'a lieu qu'une fois. Voilà. Mais il y a là l'expérience source d'une expérience actuelle, c'est-à-dire que le Christ nous a rejoints dans l'histoire pour y être présent définitivement. Il a parlé une fois pour que sa parole continue de vivre définitivement. C'est pour ça que nous n'avons pas simplement alors je vais prendre un exemple un peu polémique. Nous n'avons pas dans le christianisme l'équivalent. La Pentecôte chrétienne, d'une certaine manière, est assez critique vis-à-vis de la Pentecôte juive. La Pentecôte juive, c'est le don de la loi comme texte. Pour nous, la Pentecôte, c'est le don de l'esprit. Ma langue est un peu bafouillée parce que j'ai essayé de le dire de manière la moins polémique possible. Mais voyez la différence. Il y a un peu de polémique là derrière. Hein. Vous voyez, on ne fait... où il n'y a aucune fête dans le christianisme, aucune fête qui célèbre, par exemple, le don de l'évangile comme livre. Il n'y a aucune fête pour ça. En revanche, il y a une fête pour le don de l'esprit. Vous voyez la différence ? Pour nous, la révélation, ce n'est pas d'abord un événement du passé. Un texte, c'est quelqu'un et qui est présent là. Voilà, stop.
Un grand merci, Père.
Avec plaisir.